Vous êtes sur RTL.
C'est jour de bac, mais cette cuvée 2019 restera dans les annales. Les 743 000 candidats sont heureux, déçus, un peu assommés ou euphoriques, mais pour la première fois, certains n'ont pas toutes leurs notes. À cause de la grève des correcteurs, 30 000 copies étaient encore retenues hier soir d'après le ministère, notamment à Toulouse. Mais ça arrange certains bacheliers, Patrick Tégéro.
Eh bien, c'est le cas des ravissantes et radieuses Margot et Marie.
On est contente.
On est contente.
Bah, mon choix, c'est bien pour toutes les deux. On s'attendait à moins bien que ça.
Les mouvements de grève, tout ça, ça a aidé un petit peu, peut-être?
Moi, oui, ça m'a aidé. Hein. J'ai pris 15 en SES avec le contrôle continu, alors que je pense pas que j'aurais pu avoir 15. Ouais.
Vous dites merci aux profs qui ont retenu les notes, alors?
Oui, oui, bon, oui. On va dire ça.
Même coup de pouce pour Lucas, toujours en sciences économiques et sociales. Sa copie ayant été retenue par un correcteur gréviste, le jury lui a attribué 12 alors qu'il comptait à peine sur la moyenne.
Merci, je sais pas, parce que quand même, ils nous ont fait un petit peu peur. Mais au final, ça va, je m'en sors bien, donc je leur en veux pas.
Marie-Cécile Perria est professeure en histoire-géographie, syndiquée au SNES. Elle a fait grève et elle était venue soutenir ses élèves devant les tableaux d'affichage.
Tant mieux pour ces élèves-là, bien évidemment. Après, il y a une vraie rupture d'égalité avec d'autres élèves qui pourraient dire « Mais moi aussi, finalement, ma note de contrôle continu était meilleure que celle que j'ai obtenue à l'épreuve terminale. Et donc, pourquoi pas moi ?» C'est les recours auxquels le ministre peut s'attendre de la part des familles qui s'estiment lésées par rapport aux autres.
Les enseignants grévistes sont actuellement en assemblée générale. En cortège, ils iront remettre les copies retenues au rectorat en fin d'après-midi.
Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. On vient de l'entendre, certains candidats sont assez soulagés d'avoir une note provisoire. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a expliqué que c'était de toute façon la meilleure solution possible face à la grève des correcteurs. Mais pour autant, ça pose des questions. Marie Guerrier, potentiellement, certains candidats peuvent être recalés aujourd'hui alors qu'en réalité, ils ont réussi l'examen.
Oui, ça pourrait arriver. Un élève qui a cartonné l'examen dans une matière à fort coefficient, mais sa note n'a pas pu être comptabilisée parce que le correcteur est en grève. On a donc pris sa note de l'année qui, elle, est très moyenne. Eh bien, ça peut éventuellement le disqualifier. Ou alors, avoir des élèves qui sont envoyés au rattrapage lundi ou mardi, alors qu'en fait, ils auraient eu le bac du premier coup. C'est un cas possible, mais marginal, dit Jean-Michel Blanquer, un peu gêné quand même.
C'est effectivement un des inconvénients qu'il pourrait y avoir, mais l'élève en question aurait le baccalauréat sinon, donc ça lui crée évidemment un travail pendant le week-end, mais sinon je ne vais pas nier le fait que ça pose des problèmes. Nous sommes en situation d'avoir à résoudre des problèmes créés par un petit nombre de personnes qui s'estimaient en droit de pouvoir créer ce problème à nos élèves, et je le regrette évidemment.
Le ministre qui renvoie donc la responsabilité de la situation aux grévistes.
Mais est-ce que ça aura une incidence sur Parcoursup ?
Alors la plateforme ne validera les résultats du bac que lorsqu'ils seront définitifs. Donc pas de radiation immédiate des élèves recalés ce matin. Et on va aussi attendre les mentions définitives qui peuvent permettre à certains de remonter dans les listes d'attente avec le dispositif Meilleur Bachelier. Quand les résultats seront-ils définitifs ? Ça dépendra du retour des copies. Des profs grévistes ont déjà prévu de les rapporter cet après-midi. D'autres prendront des décisions en assemblée générale dans la journée.
Merci Marie. Alors pour aller plus loin, avec nous Maître Valérie Piot, avocate spécialiste en droit de l'éducation. Bonjour.
Bonjour.
Pour certains élèves, on l'entendait, les notes manquantes ont été remplacées par les notes du contrôle continu. Est-ce que ce tour de passe-passe est légal ?
Alors, ça pose un problème de légalité dans la mesure où le règlement du bac prévoit que c'est la note finale normalement qui est mise. Il y a une rupture d'égalité entre les candidats, puisque les candidats pour lesquels les notes n'ont pas été corrigées ou n'ont pas été apposées dans les délais vont avoir en fait deux chances. On va dire, par rapport aux autres, ça sera soit d'avoir la note de contrôle continu ou la note du bac, et on va prendre la meilleure des deux. Donc, un élève qui va rater son bac et pour lequel les notes ont été corrigées, lui n'aura pas ces deux chances. Il va avoir uniquement la note qu'il a obtenue au bac. Donc si on a un élève qui avait une bonne note au contrôle continu qui rate son bac, lui, il a une mauvaise note au bac, il va rater son bac. Alors qu'un élève dans la même situation pour lequel le correcteur était en grève va avoir le choix, et du coup, il aura sa note de contrôle continu qui sera meilleure que la note du bac et éventuellement pourra avoir son bac. Donc il y a une vraie rupture d'égalité, ça pose un problème de légalité.
Mais il y en a qui sont collés là aujourd'hui, qui finalement seront reçus un peu plus tard.
Voilà, et alors là où vraiment il risque d'y avoir beaucoup de contestations de la part des familles, c'est qu'il y a une souveraineté du jury. Donc normalement, quand le jury a rendu la décision que l'élève n'a pas le bac ou a le bac, normalement c'est définitif. Et là, on se retrouve dans une situation où l'élève, on lui dit qu'il n'a pas le bac, il passe le rattrapage, et finalement, s'il faut, il avait le bac. Et même, on peut lui changer sa note après coup, ce qui est du jamais vu. Et en termes de légalité, il y a un vrai sujet de contestation pour les familles.
Vous n'avez jamais vu ça dans votre carrière?
Ah non, mais personne n'a jamais vu ça. C'est vrai que c'est du jamais vu.
On est tous assez perplexes.
Ah bah oui. Enfin, et puis, il y a un grand principe. Moi, j'interviens souvent en matière de notes de bac, etc. Et on explique toujours aux parents, le jury est souverain. Enfin, c'est un principe de droit qui est fondamental. Le jury est souverain et la note prononcée est définitive et personne ne peut revenir sur cette note, pas même le jury, sauf effectivement s'il y a eu des conditions anormales. Et là, on est dans une situation où en fait, ce principe est mis à néant puisqu'éventuellement, on va revenir après coup sur une note rendue par un jury censé être souverain. Donc c'est effectivement du jamais vu, enfin, en termes juridiques, en termes de par rapport aux familles. Enfin, on est dans une situation assez étonnante et inédite d'un point de vue juridique. Et d'ailleurs, personne ne peut savoir quelles sont les conséquences, puisque les familles pourront éventuellement faire des recours devant les tribunaux administratifs. Et comme il n'existe aucune jurisprudence à ce jour, puisque c'est une situation comme ça n'existe pas.
Oui, donc là, on est dans l'inconnu. C'est ce qui est finalement aussi assez passionnant. Mais quelles démarches peuvent réaliser aujourd'hui les candidats?
Alors,
enfin, aujourd'hui, déjà, on va dire, ou plutôt demain, une fois qu'il y aura les résultats définitifs.
Exactement. Ouais. Déjà, il faudra attendre les résultats définitifs. Et après, les familles qui s'estimeraient lésées parce que notamment ils n'ont pas pu bénéficier du choix entre le contrôle continu et la note finale du bac pourraient éventuellement contester en saisissant le tribunal administratif parce qu'il y a cette rupture d'égalité. D'accord. Et que le principe de la souveraineté du jury n'a pas été respecté.
Donc on saisit le tribunal administratif.
Et après, le juge décidera.
On peut aussi demander à consulter sa copie.
Ah oui, alors ça, je dis toujours aux familles, s'ils ont le moindre doute, ne pas hésiter à demander à consulter les copies. Et c'est très important, le demander le jour des résultats, parce qu'en fait, les copies sont disponibles immédiatement sur place. Donc vraiment, les familles, n'hésitez pas à demander. De toute façon, ça ne coûte rien d'aller voir sa copie, parce qu'après, c'est envoyé au SIEC, enfin en région parisienne ou au rectorat, et il faut faire une demande, et ça va mettre plus d'un mois, etc. Donc là, les copies sont sur place. Donc le moindre doute, demandez à avoir votre copie, ça c'est très important, et c'est un conseil pratique utile.
On a bien compris qu'on avançait tout droit dans l'inconnu. Merci Maître Piau d'avoir été l'invité d'RTL Midi, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste en droit de l'éducation. Et vous pouvez retrouver tous les résultats académie par académie sur notre site rtl.fr. L'an dernier, 88% des candidats ont obtenu leur sésame pour l'enseignement supérieur. Et si ce n'est pas votre cas, sachez que Romain Gary, Jeanne Moreau, Omar Sy, Zizou ou encore Einstein ne l'ont pas eu non plus. Et on connaît la suite. Quant aux fraudeurs, sur les sujets de maths, 4 personnes viennent à l'instant d'être déférées devant le parquet de Paris. Vous avez des précisions, Guillaume Chiez?
Oui, il s'agit de 2 élèves, 2 candidats ainsi que d'un couple âgé de 37 ans. Les 2 élèves sont soupçonnés d'avoir acheté le sujet de mathématiques des séries ES et L, acheté à un homme, un surveillant dans un établissement scolaire privé. Cet homme est soupçonné d'avoir eu accès au sujet, donc de l'avoir revendu via l'intermédiaire de sa femme, celle qui est aussi déférée. Donc aujourd'hui, lui encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance et recel. Les élèves, eux, qui ont diffusé donc le sujet à une vingtaine de candidats, pourraient être interdits de passer tout examen durant 5 ans.
Voilà, 4 personnes qui devraient donc être mises en examen dans les prochaines minutes. Merci. Exactement. Guillaume. Dans un instant, la passagère de Lorient remise en liberté. Elle est libre. La cour d'appel de Rennes vient d'ordonner ce matin la remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire de la passagère du véhicule qui avait fauché 2 enfants à Lorient début juin. On s'en souvient, l'un de 9 ans était décédé, l'autre son petit cousin âgé de 7 ans, grièvement blessé. Le chauffeur, lui, avait été arrêté 11 jours plus tard. Cette femme n'a pas le droit d'entrer en contact avec lui. Maître Philippe Courtois, l'avocat des familles des victimes, ne comprend pas ce matin cette décision.
Il me semble quand même, pour en avoir discuté avec la famille, qu'on est, eux comme moi-même, dans l'incompréhension la plus totale. On n'est qu'à 3 semaines de l'accident. Elle nous a livré énormément de versions totalement en contradiction avec les faits, avec la réalité. Elle va même jusqu'à contester sa responsabilité par rapport à l'infraction qu'on lui reproche de non-assistance à personne en péril de moins de 15 ans. Elle n'a jamais aidé à retrouver notamment le principal conducteur. On va espérer sincèrement que cette décision ne va pas constituer une prise de risque parce que on ne sait pas comment ils se sont enfuis, on ne sait pas s'ils ont été aidés par qui, combien de personnes, combien de temps. Ces personnes-là, à l'heure d'aujourd'hui sont peut-être encore dans la nature et en tout cas en recherche par les enquêteurs. Donc on va espérer sincèrement que d'une part elle se présente à toutes les convocations qui vont être faites, notamment de confrontation, de reconstitution, et que sincèrement ça ne va pas perturber la procédure.
Maître Courtois avec Thomas Proutot. Vincent Lambert, l'arrêt des soins a été entamé depuis 3 jours maintenant par son médecin. Ce matin, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté un nouveau recours en urgence des parents de cet homme en état végétatif depuis plus de 10 ans à la suite d'un accident de la route. 20e vendredi de mobilisation en Algérie, mais ce 5 juillet est aussi le 57e anniversaire de l'indépendance. Et leur indépendance vis-à-vis du pouvoir, les opposants comptent toujours l'obtenir par la rue. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé il y a 2 jours de créer une instance de dialogue pour organiser un scrutin présidentiel. La mobilisation montrera s'il a convaincu ou pas. Reda Menassel est le correspondant d'RTL en Algérie.
5 juillet 62, 5 juillet 2019. Depuis quelques jours, les appels à une marche grandiose pour ce 20e vendredi de mobilisation se multiplient sur les réseaux sociaux et ils sont nombreux, les Algériens, à espérer, à appeler de leur vœu ce qu'ils qualifient de nouvelle indépendance pour le pays. Tôt ce matin, un dispositif policier a encadré les plus importantes artères de la capitale. De petits groupes de citoyens commençaient déjà à se former ici et là. L'atmosphère était bon enfant, même si le spectre des arrestations musclées de vendredi passé rôdait toujours. Hicham Alouib est chercheur. Il est venu spécialement de France pour ne pas rater ce moment qu'il espère historique.
Sur la symbolique politique fait un peu peur, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite. C'est pas le 5 juillet, c'est après le 5 juillet. Et la lutte des idées doit continuer et sans attendre en fait de décision du pouvoir actuel. On ne sait pas du tout comment ça va finir.
Pour rappel, le chef de l'État par intérim a appelé il y a quelques jours à une grande conférence nationale prévue pour demain.
Reda Menassel, correspondant d'RTL en Algérie. Un pétrolier iranien a raisonné à Gibraltar, au large de ce territoire britannique. Il était soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, ce qui est interdit. L'Iran demande à Londres la libération immédiate du navire et considère qu'il s'agit d'un acte de piraterie. Dans un instant, on part dans le village préféré des Français. Les vacances scolaires débutent ce soir. Le trafic est déjà chargé aux sorties de Paris. Bison futé, voie rouge, et vous conseille de partir après 20h. Demain, il hisse le drapeau orange dans toute la France. Soyez prudents et patients. Mais tout de suite, nous partons dans le village préféré des Français, direction Cassel, dans le Nord, où la fréquentation touristique a plus que doublé en un an, Franck Hanson.
Sur la grande place admirative devant les façades flamandes, près de l'estaminet, un groupe de touristes en pleine visite guidée. Le panneau village préféré des Français reste solidement accroché à l'entrée, un cachet mérité selon ses visiteurs.
Là, c'est d'un charme d'antan et puis même romantique. C'est pour ça qu'on est venu en amoureux.
Nous, on vient du Mans. On est revenu sur Cassel, qu'on avait déjà visité.
On parle toujours de la région du Nord en négatif. Ben, voilà des bonnes raisons de se réjouir et de bien vivre. Il y a un cachet pour les maisons du caractère. Regardez cette vieille demeure-là. Un petit marché qui est sympa.
Ça apporte peut-être un peu trop de monde.
Je me suis dit, comme ça a été élu le plus beau village de France, ça doit être sympa. Les gens sont chaleureux et ouverts.
Et toujours quelques accents étrangers.
C'est typique, c'est fleuri.
Ça me rappelle un peu Bruges. Chez nous en Flandre.
Très beau, c'est une surprise pour nous.
Toute la commune profite de ce nouveau statut. Les chiffres ont plus que doublé en termes de fréquentation. Céline Salomé à l'office de tourisme.
L'explosion totale des statistiques, il y en a toutes les régions de France. Notamment beaucoup de Bretons, puisqu'il y a eu plusieurs villages bretons qui avaient été élus précédemment. Ça n'a pas touché que la France. Hein. On a eu même des Japonais, ça continue. Puis le beau temps est là, que demander de plus?
Et avec ses spécialités du Nord et bière locale, ici on a le sens de l'accueil.
Franck Hanson pour RTL et à Cassel, eh bien vous pouvez aussi y aller en train. Vous serez 1,5 million dans les gares ce week-end. Et il a fallu mettre des renforts au guichet car les queues aux distributeurs sont tellement longues qu'on en vient parfois à rater son train. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, promet d'y veiller.
L'affluence très importante qu'on a ces derniers jours a certainement été sous-estimée et moi je ne peux pas me satisfaire d'avoir des queues importantes au guichet. Donc on en a parlé avec le président de la SNCF, il y a des renforts qui ont été mis en place. On constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de Français qui achètent leurs billets sur Internet, par téléphone ou borne, mais il faut aussi qu'on puisse acheter son billet au guichet et donc c'est les renforts qui vont être mis en place. C'est un service public qui doit être accessible à tous.
Elisabeth Borne au micro RTL de Sébastien Rouxel. 5 Tours de France à son actif, 5 Giro, 3 championnats du monde, 28 classiques, 111 jours dans l'Hexagone avec le maillot jaune sur les épaules. On comprend mieux pourquoi le Tour de France a décidé de mettre une légende, Eddy Merckx, à l'honneur cette année. Sa toute première victoire, c'était il y a 50 ans tout juste. Et pour le saluer, le peloton passera dans son village lors des 2 premières étapes. Pour les Belges, Nicolas Georgerot, le cannibale est tout simplement un monstre sacré.
Exactement, prononcer le nom Eddy Merckx ici dans la rue et les réactions sont instantanées.
Sacré Eddy Merckx, notre Belge, notre Bruxellois qui parle parfaitement nos deux langues nationales. Et quand on dit Eddy Merckx, boum
ouais. Vous dites Eddy Merckx, tout le monde le connaît. Hein.
Il est partout, sur les affiches officielles, sur cette bâche aussi de 3200 m² à son effigie. C'est la légende, l'emblème d'une Belgique reconnaissante. Alain Courtois est l'un des députés bruxellois.
C'est plus qu'un cycliste. Les francophones se retrouvent dans Eddy Merckx parce que c'est l'ancienne Belgitude, c'est la Dame Blanche, Hergé, les frites, la mayonnaise belge, c'est la Belgitude. Les Flamands, pour eux, c'est un Flamand, donc ils cumulent tout. Et Eddy, il rassemble ça avec un monument sportif. Que demander de mieux ?
L'hommage des coureurs aussi.
C'est Monsieur Cyclisme.
C'est comme une figure tutélaire pour Romain Bardet.
Si je fais du vélo, c'est grâce à mon père, et mon père est venu au vélo en lisant un bouquin de Merckx, donc voilà, l'histoire est assez sentimentale. Le Tour de France sera un petit peu Eddy Merckx, tout ce qu'Eddy Merckx lui a apporté, et c'est un beau symbole, et c'est important de se rappeler des mythes de notre sport.
Eddy Merckx, un charisme et un palmarès qui traverse les générations et qui parle aux plus jeunes.
Et il sera l'invité exceptionnel d'RTL Soir à 18h20 avec Vincent Parisot.